Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
20h18, vous êtes sur RMC comme chaque lundi avec les drôles de dames. Voilà, comme chaque lundi, vous venez poser vos questions aux drôles de dames 32-16. Les souhaits de nos drôles de dames pour l'Euro. Place au tenant du titre, l'Italien Johan Crochet. C'est quoi ton souhait pour la nationale et pour l'Euro, Johan?
Les deux matchs amicaux qu'on a eu aux États-Unis, une très belle tournée financière qui a bien marché pour le business et aussi pour toute la diaspora italienne présente aux États-Unis, parce qu'ils avaient choisi en plus Miami et New York, qui sont deux des plus grosses communautés italiennes aux États-Unis, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des très belles images et des très belles rencontres entre supporters et joueurs. Il y a eu surtout beaucoup de tests de la part de Luciano Spalletti, notamment de tests de joueurs déjà et de tests de schéma, parce qu'on sait que depuis quelque temps, il a envie de travailler sur une défense à 3, 3-4-2-1, parce que beaucoup de joueurs en club évoluent dans ce système-là, premièrement. Deuxièmement, parce que ça pourrait combler certaines lacunes sur le plan offensif, et notamment le fait que sur les ailiers, Berardi blessé, Insigne n'est plus là.
Qui est quand même le gros problème de l'Italie, hein, depuis quelques temps, non?
Oui, parce que tout le monde parle de l'avant-centre, mais moi je trouve que sur les côtés, c'est le désert, quoi. Mais vraiment, hein, donc si aujourd'hui vous parlez d'un 4-3-3, en gros, à gauche, tu peux estimer que c'est Zakaï et El Shaarawy, les deux plus probables. Et à droite, ça serait Chiesa et Zaniolo. Moi, je mets Chiesa à droite parce que vraiment, à droite, sinon, c'est que Zaniolo et c'est compliqué. Donc, on est quand même assez loin d'un très, très haut niveau. Et donc, ce 3-4-2-1 permettrait d'avoir des joueurs plus dans l'axe. Et comme il y a beaucoup de milieux de terrain en Italie, c'est sans doute le seul secteur où ils sont plutôt bien. Ça permet aussi de densifier, de mettre plus de talent à ce niveau-là. Et donc, dans les expérimentations ou dans les choix qui ont été faits, j'ai un je veux et un je veux pas. Dans le je veux à l'Euro, c'est Lorenzo Pellegrini. Parce que, justement, dans cette abondance de milieux de terrain, il n'y en a pas beaucoup qui ont sa qualité technique, sa vision du jeu et sa créativité. C'est pas un créatif à la, un joueur très dribbleur, etc., qui va percuter, etc. C'est plus un passeur qui, sur un pas, va faire une petite balle lobée par-dessus la défense ou qui va trouver l'intervalle entre le latéral et le défenseur central, qui va vraiment offrir des ballons de but à ses attaquants. Et notamment hier, hier, le match contre l'Équateur,
ouais.
Il met un petit ballon lobé pour Raspadori. Il est exceptionnel, ce ballon. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. En plus, dans les avantages, tireur de coup de pied arrêté, le meilleur. Donc, c'est très important. Direct ou indirect, d'ailleurs, corner ou coup franc direct. Hein, il a marqué plusieurs coups francs directs également. Capacité à tirer de loin. D'ailleurs, le but qu'il met contre l'Équateur, c'est une frappe du gauche extrêmement puissante. Mais la Roma a sorti il n'y a pas longtemps les 50 buts de Pellegrini sous le maillot de la Roma. Il y a beaucoup de frappes de l'extérieur de la surface, pied droit, pied gauche. Et ça, c'est important. Dernier élément qui peut être aussi important, c'est sa polyvalence. Parce que Spalletti a travaillé sur le 3-4-2-1. Mais on a aussi comme le 4-3-3, la deuxième partie du match contre le Venezuela, qui était le premier match amical de cette tournée américaine, il l'a fini en 4-3-3. Et Pellegrini peut jouer 10 derrière l'attaquant, le fameux trequartista en Italie, ou il peut jouer relayeur dans un milieu à 3. Donc c'est aussi un joueur qui peut convenir aux deux systèmes qui sont travaillés par Spalletti. Donc ça, c'est le côté je veux, parce que c'est un joueur, il n'y a qu'un profil comme ça en Italie, et on en a besoin parce que sinon ça manque de talent, de classe, tout simplement.
Et qu'est-ce que tu veux pas alors?
Je veux pas, c'est Zaniolo, parce que c'est trop compliqué, parce que Julien pourrait en parler, hein, sa saison à Aston Villa, c'est très compliqué, parce qu'il marque très peu, il fait jamais de passes décisives, parce qu'il dribble très peu, il réussit très peu de dribbles, parce qu'en plus, le QI football est quand même pas le plus élevé, clairement pas, en dehors des terrains, c'est pas le saumon le plus oxygéné de la rivière non plus, donc c'est...
J'adore cette expression.
C'est un peu compliqué, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec lui, il râle tout le temps, il fait beaucoup de fautes, quand il estime qu'il y a faute sur lui, il s'arrête tout de suite de jouer, ou il tombe à terre, enfin c'est vraiment pas un... Il a jamais progressé, alors il a eu deux grosses blessures, il faut faire attention évidemment à ça, hein, mais au niveau personnalité, caractère, etc., il a jamais fait le step qui aurait dû lui permettre de s'imposer dans cette équipe-là par rapport à tous ses débuts avec la Roma où il était assez extraordinaire. Et je veux pas non plus qui a été très décevant sur le match contre le Venezuela, Buongiorno, le défenseur du Torino. Alors, comme par hasard, donc défenseur du Torino. Torino appartient à Urbano Cairo, le président du Torino, propriétaire, qui possède donc la Gazzetta dello Sport.
Alors ça, c'est ouf, ça. Ça, c'est quand même dingue. Le mec, il est président du Taureau et il est proprio de la Gazzetta.
Du RCS Group. Et donc de la Gazzetta
majoritaire de la Gazzetta,
la Gazzetta ouais. De sport. Il y avait d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas s'il y a toujours de Marca, non,
c'est Marca, ah bah ou c'est toujours Marca,
toujours,
c'est toujours Marca,
ouais, voilà,
de il y a Marca, il y a El Mundo, c'est-à-dire le El Mundo, pas le Mundo Deportivo,
oui, le quotidien,
El Mundo, le quotidien, c'est la formation générale qui est le deuxième du pays, Marca qui est deuxième, enfin ça dépend des régions, enfin bref, c'est avec AS l'un des deux plus grands, et c'est tu as raison. Alors ce qui est dingue, c'est que Marca en Espagne, alors que AS avait pris position en faveur de la Super League parce que le Real est en faveur de la Super League, Marca était bien emmerdé parce que comme le président du Torino était contre la Super League, ah oui. Marca, qui naturellement aurait dû être en faveur de la Super League, ne pouvait pas à cause de son propriétaire.
D'accord, ouais, c'est marrant.
Et donc la Gazzetta dello Sport a beaucoup travaillé, s'est creusé les méninges pour trouver des joueurs moins bons que Buongiorno sur le premier match, parce que ça ne faisait pas de mettre
Buongiorno sur les notes et tout.
Ouais. Ah, ça ne faisait pas de mettre Buongiorno comme pire joueur du match, alors qu'il s'est fait laver par les attaquants vénézuéliens pendant tout le match.
C'est ouf.
Il a été pas bon, et c'est une vraie question parce qu'il y a le cas Acerbi dont on a parlé la semaine dernière, accusé de racisme par Juan Jesus. S'il prend des matchs de suspension, il y a très peu de chances que Spalletti le convoque pour des raisons éthiques. Et donc ça fait un joueur de moins dans ce secteur-là, et c'est un joueur clé Acerbi. Donc Buongiorno peut avoir une place dans ce groupe-là, mais moi, entre Buongiorno et Calafiori, le défenseur de Bologne, tous les jours je vais sur Calafiori. J'étais un peu déçu d'ailleurs qu'il soit pas appelé. Donc voilà les jeux, et je veux pas pour l'Euro.
Et juste une question quand même, parce que c'est un peu le paradoxe. Tout à l'heure on se marrait là-dessus avec Fredo, mais l'Italie a raté les deux dernières coupes du monde. Ils ont remporté l'Euro entre les deux coupes du monde. C'est quoi l'objectif de l'Italie pour l'Euro alors?
Ils sont dans la poule la plus difficile, avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie. Le seul avantage que tu peux avoir, entre guillemets, c'est que tu commences par l'Albanie. Attention, c'est une très belle équipe, maintenant, l'Albanie qui a beaucoup progressé. Mais...
Enfin, avantage, oui, non, ça veut dire que tu dois marquer des points d'entrée, quoi.
Oui, mais si tu bats l'Albanie en premier, t'as beaucoup moins de pression derrière. Mais... Et comme il y a les quatre meilleurs troisièmes qui passent.
Il y a les meilleurs troisièmes qui passent. Ouais.
Tu sais qu'avec un match nul contre la Croatie ou l'Espagne, normalement, t'es dans les meilleurs troisièmes. Donc ça peut passer. Mais t'as forcément pas d'énormes ambitions. Mais je rappelle que l'ambition au dernier Euro, c'était pas de remporter. Hein.
Ouais.
C'était déjà de passer la phase de groupe, 8e quart, on voit comment ça se goupille, le tirage au sort, etc. Donc on sera à peu près sur le même concept, parce que finalement, tu n'as pas du tout réussi à capitaliser sur l'Euro 2021, puisque tu n'es pas allé au Mondial qui suivait 18 mois après.
Elle fait flipper les Espagnols, l'Italie ou pas?
Ah bah c'est le groupe.
Oui, généralement, mais pas forcément l'Italie plus que ça.
Quoi. Non, mais non, parce que l'Italie est toujours respectée en Espagne.
Ouais.
C'est culturel. Franchement, je pense qu'en Italie, l'Espagne, vraiment, personne ne va prendre l'Italie.
Mais l'Italie ne peut pas faire flipper aujourd'hui. Enfin, je veux dire, elle n'a pas le matériel pour faire flipper.
Mais quand même,
les
pas flipper quand ils ont gagné l'Euro.
Ne pas faire flipper, ça ne veut pas dire ne pas être performant.
Oui, et puis ne pas respecter.
Oui, non, c'est pour ça. Il n'y aura pas de dédain des Espagnols. Et puis la Croatie, ça fait peur aussi.
Bah, moi, je mousse, quoi. Alors, tu voulais rendre hommage à un président qui a marqué le foot espagnol et dont on a appris le décès hier.
Alors, vous savez, moi, tous les week-ends, je pense à la musique que je vais mettre le lundi.
Ah oui.
Et je me suis rendu.
C'est dommage que tu ne penses pas aux chroniques aussi. Mais
Ah bah écoute, je ne peux pas tout faire. Hein, et je me suis dit, c'est fou. Ça fait deux ans maintenant, deux saisons que nous faisons la musique, et je n'ai jamais mis le plus grand chanteur portoricainien de. Voilà, en musique, Roger Feliciano, avec une chanson absolument merveilleuse qui s'appelle La Copa Rota. Donc voilà.
Qui veut dire
c'est le verre brisé.
D'accord.
Mais la Copa, c'est aussi la coupe.
D'accord.
La coupe. Et Manuel Ruiz de Lopera, qui vient de mourir, le président du Betis, sa grandeur de gloire, c'est la Coupe d'Espagne. Vous savez, le foot, c'est surtout dans les pays qui aiment vraiment le foot, où le foot est la folie, les présidents sont parfois plus importants que les joueurs.
Ouais.
Et Manuel Ruiz de Lopera, franchement, on a beaucoup parlé depuis l'annonce de son décès, et chacun s'est souvenu des anecdotes. C'était un monsieur extrêmement truculent. Quand il racontait les histoires qu'il avait avec les joueurs.
C'est années 90-2000, hein,
ouais, pour vous restituer les plus jeunes. Ouais. Exactement. C'est un monsieur qui aimait bien, qui s'aimait bien aussi. Il avait quand même. Alors, il était propriétaire du club, mais les sociaux sont votés que le nom de.
Ça, c'est fou, ça. Le mec à l'époque avait dit. Je veux marquer l'histoire du club. Il a fait voter aux sociaux le changement de nom du stade.
Les actions, c'était les actions. Mon conseil d'administration, sauf que les actions, c'était à lui. Donc ils ont changé de nom. Il dit, moi, j'ai rien voulu. Donc pendant plusieurs années, le stade s'est appelé et Manuel Ruiz de Lopera. Et après, il est redevenu Benito Villamarín, quoi. Tu vois, donc c'est bon. Mais c'est quelqu'un qu'on aimait bien parce que Alors, il y a des anecdotes, elles sont extraordinaires. Il y avait un joueur qui s'appelait Berhamin. Berhamin, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, 90-2000, qui est un joueur hispano, à moitié espagnol et d'origine aussi de Guinée équatoriale, qui était un type bon, qui aimait bien faire la fête. Et c'était Halloween 2001. Le président, qui aimait bien contrôler les joueurs, apprend qu'il y a une fête d'Halloween organisée chez Berhamin. Donc il va voir Juan de Ramos, vous vous souvenez de l'entraîneur, il dit, bien sûr, on y va. Et après, le plus drôle, c'est comment il raconte ça à la radio deux jours après. Alors je ne peux pas faire l'accent andalou, mais en plus avec l'accent andalou, c'est excellent. Il dit, voilà, j'entre. Et là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles en train de faire des activités physiques. pas très... Non, mais il raconte ça à la radio et tout. Et là, les joueurs commencent à halluciner. T'en as certains.
Parce qu'il n'est pas invité,
il se prend. Il n'est pas invité. Ouais. Et puis en plus, ils vont faire des fêtes comme ça en pleine nuit, alors que c'est des joueurs professionnels. Certains joueurs passaient par les fenêtres, par le balcon, pour pas se faire choper. Et le mec, il raconte ça dans le Larguero, la grande émission de radio deux jours après, quoi. Enfin, c'est des trucs comme ça. C'est aussi celui qui est en guerre absolue contre Séville. Qui déteste le président de Séville, tu vois, c'est vraiment un moment de forte tension.
Et qui est Del Nido à l'époque déjà, non ?
C'était Del Nido, et il y a la mort d'Antonio Puerta. Ah, et oui. Là, il y a, parce qu'en Espagne, vous savez, la veillée funéraire, c'est on enterre les gens le lendemain, donc c'est à partir de la mort. Il y a toute la nuit, on veille les morts, ouais. Et le lendemain, il y a l'enterrement. Et en fait, la veillée funéraire se fait avec plein de public au Sanchez-Pizjuan. Et là, contre toute attente, arrive l'opéra, l'entraîneur et tous les joueurs. Venir le corps et rendre hommage. Donc voilà, il y a plein d'images dont on se souvient quand on parle de Manuel Ruiz de López.
Il y a une chose plus terre à terre aussi, mais pour moi, surtout ce président, bah, c'est Danielson en 98, record le plus cher de l'histoire à l'époque.
Vrai, exactement. Et
les 212 millions de francs.
Et qui est un flop.
Quel joueur quand même.
Oui, parce que c'était trop cher pour le Betis. D'ailleurs, après, il y a eu plein de problèmes de fric. Le Betis est redescendu en deuxième division. Voilà, le Betis, je crois que c'est sous sa présidence que le Betis joue. Oui, c'est bien ça. Joue la Ligue des Champions, mais c'était trop gros pour eux et ils descendent en deuxième division la saison suivante. Donc voilà. Alors c'était pas toujours un modèle, mais il fait partie de ces présidents qui marquent une histoire dans un pays qui adore le foot comme Espagne.
C'est l'alerte, c'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre RMC, vous envoyez à partir de maintenant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi 29 dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000 euros. Bonne chance à vous. Suite des avis, des souhaits de nos drôles de dames pour l'euro. Vous allez voir que Polo rêve d'un autre euro pour nous, pour vous, pour nos enfants. À tout de suite sur RMC.